Bonjour à chacun, à chacune. Bienvenue aux visiteurs, aux vacanciers. Finalement, nous sommes pas au complet, mais on est bien nombreux ce matin, c'est bien. Oui, j'aime beaucoup ce verset que Jean-François a pris. Hein, par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Bon, vous le savez, bon, attachement à la parole. Je pense que c'est des choses qui nous sont données pour ce temps sur cette terre. On va parler de la marche au moment d'une fin d'année. C'est toujours bien de faire un petit bilan. Hein. Et la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Hein. Ce ne sera pas mon thème ce matin, mais encore que mon thème ce matin, ce sera demeurer dans la grâce, j'y reviendrai. Parce qu'au moment où s'achève cette année, il est bon de s'arrêter pour faire le point sur notre marche avec le Seigneur, mais qui est indissociable de notre marche avec nos semblables, et puis j'allais dire notre marche avec nous-mêmes. La marche chrétienne n'est pas toujours évidente, elle ne va pas de soi pour, j'y vois au moins trois raisons. La première, nous dit l'Écriture, le monde entier gît sous la puissance du malin. On pourrait dire quasiment le monde entier se vautre dans le mal. Ça vous paraît peut-être violent, mais en fait, c'est la réalité. Et cela n'est pas spécialement favorable pour la marche chrétienne. Or, nous vivons dans ce monde, et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, c'est bien la volonté de Dieu. La deuxième raison, c'est que la vie au sein du corps ne va pas de soi non plus, car notre vieille nature a la peau dure et le message de la croix ne réjouit pas forcément. Le vieux Robert et les vieux, vous pouvez mettre votre prénom. Hein. Voilà. Et puis la troisième raison, et disons-le tout net, ça c'est quand même quelque chose qui caractérise notre temps, notre époque, parce que s'il est vrai que le cœur de l'homme est le même depuis la chute, si l'ennemi de nos âmes use des mêmes stratégies depuis des siècles, je le rappelle quand même, hein, ça a été dit dans la Genèse, des moments de la chute, et ça a été repris dans la première lettre de Jean, il nous présente ce qui est agréable à la vue, c'est la convoitise des yeux, il nous présente des choses bonnes à manger, à consommer, c'est la convoitise de la chair, et puis le grand sujet, tout ce qui ouvre l'intelligence, et c'est l'orgueil de la vie. Les stratégies, les tactiques, les instruments du diable pour nous séduire n'ont pas changé. Ce qui manifestement caractérise ce temps, c'est une diffusion et un martèlement des pensées de la libre disposition de soi et de la glorification du moi qu'il nous faut réaliser à tout prix, qui a pris une place énorme. Et avec les moyens de diffusion, j'écoutais un enseignant, Henri Blocher, qui disait, c'est vrai que ces choses n'ont pas changé, par contre, ce qui a changé, c'est quand même la puissance de diffusion, ce qui était autrefois réservé à une élite délabrée dans ses mœurs, est aujourd'hui largement répandu. Et ça, c'est quand même la marque du temps. Donc cette libre disposition de soi et cette glorification du moi qu'il faut rechercher à tout prix a pris une telle place, une telle pression, y compris sur nos milieux religieux, y compris évangéliques, qu'il semble que plus rien ne peut venir contrecarrer cela. Et pourtant. Alors ce matin, moi, je voudrais partager avec vous concernant justement la grâce. Celle qui est venue par Jésus-Christ, celle qui sauve l'homme qui croit, celle qui ne vient pas de nous, nous dit l'Écriture, celle qui nous est donnée, celle que nous avons acceptée, saisie, reçue, et celle dans laquelle nous sommes invités à demeurer. Oui, demeurer dans la grâce, après avoir été sauvés par elle. J'avais vraiment ça à cœur. Ne pas s'imaginer ou me laisser entraîner dans des voies qui me conduiraient à penser que je peux, maintenant que je suis sauvé, m'en passer. La grâce, c'est pas... Oui, c'est par grâce que nous sommes sauvés, ce sera mon premier point, mais on en a tellement besoin. On en a tellement besoin. Alors, je regarderai avec vous trois aspects. On rappellera, je crois que c'est toujours bon, Nous avons lu le début de la lettre aux Éphésiens. Je lirai un passage qui suit au chapitre 2. Le chapitre 1er nous parle du premier qui de cette nouvelle création, Jésus-Christ. Et c'est un passage merveilleux que nous a lu Jean-François. Je lirai dans Éphésiens 2, les versets 1 à 9. Donc c'est par grâce que vous êtes sauvés, ou j'appellerais ça la grâce initiale. Je vous invite à lire dans Éphésiens 2. On va lire les versets 1 à 9. Dans la continuité du passage que nous a lu Jean-François là, tout à l'heure. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Je lis le texte comme il est. Évidemment, je m'associe. J'étais, comme chacun de vous, mort par mes offenses et par mes péchés. Dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, nous en avons parlé, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, Paul fait ici allusion païens et juifs, hein, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Ces versets, on passe des fois vite dessus. Vous voyez, vraiment, aujourd'hui, c'est quand même une marque de ce temps. La glorification du moi, mes projets, mes ceci, mes cela, mes rêves. J'étais un peu troublé, je reparlerai avec le bureau, grand rassemblement de jeunes, et je voyais, c'était l'objet de ma méditation pour le mois de janvier, que vous trouverez sur le site, que ton règne vienne. Et alors je dis, oh tiens, ce rassemblement, il est placé sous ce même signe, que ton règne vienne. Non, c'était que ton rêve vienne. J'étais un peu troublé, bien sûr. On va sûrement les amener au Seigneur, mais quand même, que ton règne vienne. Les rêves, oui, c'est bien de rêver, mais de ramener nos rêves soumis à la pensée de Christ, je pense que ça va mieux. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Jésus-Christ le premier, nous l'avons lu, et nous avec lui, mais nous ensemble. D'une part, pas tout seul, chacun dans son coin, et en lui et ensemble. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Remarquez la forme insistante. C'est par la grâce, c'est-à-dire pas par nos mérites, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, comme si Paul veut insister. Parce que les choses sont tellement fortes en nous que peut-être nous y serions pour quelque chose. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et je m'arrêterai là. Nous avons été touchés un jour par cette grâce, nous avons compris, nous étions perdus, mauvais, égarés. Nous avons saisi combien nous avions besoin du pardon. Ce pardon, nous l'avons reçu, je pense, pour un bon nombre parmi nous, en saisissant par la foi l'œuvre accomplie de Jésus qui vient prendre la condition humaine et mourir à la croix, supportant le jugement que méritaient nos fautes. Vous savez, on parle beaucoup de l'unité. Si on reçoit ces versets, ça nous unit. Ça nous unit. Supportant, Jésus a supporté le jugement que méritaient nos fautes, accomplissant ainsi ce qui était nécessaire pour que le Dieu trois fois saint puisse nous accepter. Le psaume 130 nous rappelle, c'est un merveilleux verset aussi, « Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, mais Seigneur, qui pourrait subsister ? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. » sans doute des rappels pour beaucoup. Et nous avons pour beaucoup ici accepté cette réalité merveilleuse pour le cœur qui s'humilie. Il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Oui, toutes. Oui, absolument toutes. Même celles qui rongeaient nos cœurs pendant des années, des décennies peut-être pour certains. Celles qui nous entraînaient dans des remords, qui peut-être nous ont conduits au bord de pensées extrêmes, de la mort comme solution pour en finir avec soi ou avec les autres. Je veux dire ces choses. Oui, peut-être parmi nous, certains ont été jusque-là. Certains sont passés à l'acte. J'avais ça à cœur et se disent c'est fini pour moi. Jean-François, qui est aumônier dans les prisons avec quelques frères, nous rapporte finalement et rencontre avec des hommes qui ont commis un moment l'irréparable. Le meurtre, des violences sur lesquelles on pourra parvenir, mais dans le fond, dans nos vies, il y a des choses sur lesquelles, qui ont eu des conséquences, sur lesquelles on pourra parvenir. Et là, c'est fini pour moi. Je ne sais pas, je pense que ce matin, il y a peut-être des personnes ici qui sont dans cette situation, qui ont commis à leurs yeux l'irréparable. Peut-être c'est pas su, peut-être c'est pas tombé sous la loi, peut-être. Mais si on comprend la grâce, il est mort pour cela, à notre place. Toutes nos offenses. Oui, Jésus-Christ, l'homme venu du ciel, l'homme qui a marché sur cette terre est venu et mort à la croix de Golgotha, il a subi le jugement que méritaient nos fautes. Lui, l'homme sans péché, le Fils bien-aimé dans lequel le Père Céleste a mis toute son affection, a été fait péché. Il n'est pas devenu pécheur, il a été fait péché. Le regard du Père s'est détourné un temps, car le Dieu Saint ne supporte pas le péché et ne peut le voir. Mais à l'instant de sa mort, la justice de Dieu a été satisfaite et un chemin a été ouvert pour que les pécheurs puissent recevoir le pardon de leurs fautes et puissent s'approcher de Dieu. Voilà la grâce. Voilà la grâce telle qu'elle est manifestée à la croix. Voilà la grâce par laquelle nous sommes sauvés, au moyen de la confiance en celui qui a accompli cette œuvre, Jésus-Christ. La foi, c'est la confiance en Jésus, l'homme de Nazareth, le Fils de Dieu. Peut-être certains qui même fréquentent l'Église depuis des années, parce qu'on peut fréquenter une Église pendant des années, parce qu'on pense que ce n'est pas mauvais, parce que, voilà, mais on peut rester dans l'ignorance. Peut-être, s'il y a une personne ce matin qui saisit ce qu'est la grâce, alors qu'il la saisisse pour lui, pour sa vie. C'est cela, ce n'est pas moins, ce n'est pas une mièvrerie, ce n'est pas une tolérance, c'est le Fils de Dieu qui est mort à notre place. Il n'est pas venu pour des bien portants. Il n'est pas venu pour des justes, il est venu pour des malades, des pécheurs, des perdus. La loi a été donnée par Moïse, et la loi, elle révèle le péché, elle nous conduit quelque part au désespoir, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Là où le péché a abondé, la grâce à surabonder. Rappel, mais c'est là. Si ce n'est pas cela, voilà le fondement de notre foi. Par grâce, au moyen de la foi, sans les œuvres de la loi, nous ne pouvons rien ajouter. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Et la grande question, c'est ce don, est-ce que je l'accepte? Parce qu'accepter une chose gratuite comme ça, qui à la fois met en lumière ma culpabilité, ma faute et ma condamnation, c'est humiliant. C'est humiliant. Combien de temps ai-je résisté? Et pour certains, combien de temps vais-je encore résister? Notre unité, frères et sœurs, elle peut être basée que là-dessus. Si on réalise de quoi chacun en a été tiré, alors bien des choses pèsent très peu à côté de ça. En tout cas, peut-être parce que j'ai rencontré le Seigneur à un âge respectable, certes, 48 ans, mais oui, je mesure de plus en plus. De plus en plus. Bien sûr, l'ennemi peut accuser, mais de plus en plus quand même, je mesure ce qu'est la grâce, ce à quoi le Seigneur m'a arraché. Il nous a arrachés, frères et sœurs, ni plus ni moins qu'à la mort. Bien sûr, la mort spirituelle, mais je sais que pour certains, la mort tout court, c'est la grâce. Alors, ça, c'est la grâce initiale, celle qu'on a découverte, et ça a été merveilleux, je pense, de découvrir ça. Mais il s'agit de demeurer dans cette grâce, parce que nous en avons besoin jour après jour. La découverte, quand l'ignorance est levée, ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Alors demeurer dans la grâce, comme au premier jour, c'est toujours en lui, Jésus-Christ, que nous sommes acceptables auprès du Père. Je répète, aujourd'hui, vous êtes peut-être chrétien, vous avez peut-être donné votre vie au Seigneur depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mais c'est toujours en Jésus-Christ, qui maintenant est dans la gloire, auprès du Père. Mais c'est toujours en lui que nous sommes acceptables auprès du Père. C'est toujours pas parce que nous aurions accepté une fois la grâce que nous serions maintenant acceptables en nous-mêmes. C'est toujours par Jésus-Christ que nous pouvons nous approcher de la majesté divine. Et c'est toujours par grâce, au moyen de la foi. Notre salut par grâce ne nous acquiert aucun mérite. Un héritage nous est réservé. Nous sommes appelés fils et filles, nous sommes co-héritiers de Christ, qui n'a pas honte de nous appeler ses frères et ses sœurs, mais tout cela n'est que pure grâce. C'est par Jésus-Christ, au travers sa mort et sa résurrection, c'est en lui que nous sommes au bénéfice, c'est-à-dire en tant que membres de son corps, en tant que sarment rattaché au cep et recevant la sève de vie éternelle, et fonctionnant dans la soumission à la tête du corps, c'est-à-dire Christ. Ce n'est pas autrement. C'est toujours en lui, c'est toujours par lui. Et tout cela, et maintenant notre vie, c'est pour lui, pour sa gloire, à laquelle nous participons déjà en partie, et à laquelle nous participerons pleinement lorsqu'il reviendra. Alors, je voudrais peut-être partager, sur la base de la parole, quelques recommandations pour ne pas nous égarer, pour ne pas déchoir de la grâce. Reconnaissons que nous avons besoin d'être gardés par le Seigneur pour ne pas oublier d'où il nous a tirés. Je sais, c'est peut-être pas très populaire ce que je dis là, parce que, évidemment, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Pourtant, l'Écriture nous donne un certain nombre d'avertissements ou de recommandations. C'est pour ça que je voudrais vous les partager. Et ceci dans une attitude, je dirais, d'humilité, que ça nous garde dans une attitude d'humilité, pas d'écrasement, mais d'humilité confiante. D'humilité confiante. Alors, quelques recommandations. La deuxième de Pierre nous dit, ne mettons pas en oubli la purification des anciens péchés. Vous savez, ce début la deuxième lettre de Pierre. Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et si vous avez ces choses en vous, elles ne vous laisseront pas stériles pour accomplir la volonté de Dieu, ajouter à votre foi la vertu, etc. Ceux en qui ces choses ne sont pas, sont aveugles. Ils ont mis en oubli la purification des anciens péchés. Frères et sœurs, peut-être vous trouvez que ce n'est pas très victorieux mon propos, mais c'est pour que nous la conservions, cette victoire. Reconnaissons que nous sommes fragiles. Pourquoi le Seigneur dit cela à travers la bouche de Paul? La purification de nos anciens péchés. Nous avons été pardonnés, nous avons été purifiés, nous avons été libérés, je pense, il y a vraiment des liens. Pour autant, puisque nous sommes dans la chair, chacun, avec sa vie, avec son parcours, peut avoir des faiblesses. L'ennemi ne manquera pas de les souligner, mais nous-mêmes, nous pourrions y retomber. C'est pour cela, simplement, que le Seigneur, dans sa grâce, nous dit « n'oubliez pas ». Que cela ne nous écrase pas, mais ne soyons pas arrogants. Demeurons dans la crainte de Dieu sur ce sujet. Également, demandons au Seigneur, vous verrez dans ces textes, il connaît notre nature, il sait que nous sommes encore dans la chair, il sait qu'il y a encore le potentiel du mal qui guette. Dans Proverbe 30, à partir du verset 5, il écrit ceci, « Toute parole de Dieu est éprouvée, il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. » J'aime bien, nous avons toujours besoin de Dieu comme refuge. Je le rappelle souvent, le refuge, c'est plutôt quand même pour des gens qui ont besoin de protection. Ça nous rappelle qu'on a besoin de cette protection en permanence. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Je te demande toutes choses, écoutez bien, ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que, dans l'abondance, je ne te renie, c'est fort, et ne dise qui est l'Éternel, ou que, dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Les proverbes, vous savez, nous parlent beaucoup de la réalité de notre condition humaine. Et là, l'auteur des Proverbes dit, « Seigneur, je me sens faible, je vois bien que je pourrais être vulnérable. Alors, ne me donne ni pauvreté ni richesse. » Il a bien compris, il a bien saisi dans son cœur. Moi, c'est vraiment des choses que, quand j'ai découvert la parole de Dieu, ça a fait écho. Je vivais ma vie, j'ai connu des moments dans la vie professionnelle, des moments de succès. Et j'ai vu comment. Alors, je ne connaissais pas Dieu comme je le connais. Je savais qu'il existait. Mais je vois bien comment notre nature peut se glorifier, s'enorgueillir et commettre bien des péchés. Alors, vous allez me dire, maintenant, nous avons Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous avons été scellés du Saint-Esprit. Nous cherchons à marcher selon l'Esprit. Nous cherchons à être remplis du Saint-Esprit. Alors, il n'y a plus de problème. Non. Rien à voir. L'Esprit est l'âme et le corps. Nous continuons de marcher dans ce corps. Et on a besoin de sagesse. Donc là, ça nous parle aussi. Demandons au Seigneur de ne pas tenir pour rien la question aussi, les questions matérielles. J'en parlerai un jour plus longuement. Nos rapports à l'argent, à la richesse, au travail, au gain, etc., à la possession. C'est des choses. Demandons au Seigneur. Faisons peut-être cette même prière. Seigneur, que vraiment, tu me gardes. Tu me gardes. J'ai besoin d'être gardé par toi. La deuxième recommandation, qui va un peu dans le même sens, garde-toi. Garde-moi de t'oublier. Genèse 8, verset 10, « Lorsque tu mangeras et te rassasiras, Tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, lorsque tu habiteras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu des bétail, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi. La bénédiction de Dieu. Et Dieu veut nous bénir et il se plaît à nous bénir. Il n'y a pas de doute là-dessus. Vous aurez toujours des pauvres parmi vous, mais ils ne sont pas destinés à le rester. Et se disant, je ne prêche pas la théologie de la prospérité. Mais si quelqu'un est dans la misère, la souffrance, qu'il vient à Dieu, Dieu va le conduire, va le guider. Il ne va pas le laisser parce que ce n'est pas sa volonté. Il va le conduire. Celui qui ne travaillait pas va se mettre à travailler. Et du coup, tout simplement, il va gagner son pain. Oui, Dieu veut nous bénir. Mais prends garde, nous dit-il, que ton cœur ne s'enfle. Que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison du servitude. N'oublie pas la purification de tes anciens péchés. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Garde-toi de dire cela dans ton cœur. S'il nous dit, c'est que ça pourrait arriver. J'ai un peu le temps, je voudrais aller lire un autre passage dans Ézéchiel 16 qui passage qui m'a sur lequel je me suis souvent interrogé et qui là m'a parlé. Dans Ézéchiel 16 à partir du verset 4. Le Seigneur s'adresse à son peuple. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang et je te dis « Vis dans ton sang, je te dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 000 000 comme les herbes des champs, et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi, je te regardais, et voici, ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe. » Je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Nous avons là l'image, bien sûr c'est le peuple de Dieu comparé à une finalement jeune fille qui se prépare à être l'épouse. Mais nous avons là la vie naturelle dans le sang et la vie qui vient de Dieu, qui vient surgir. Et cette vie, elle peut venir lorsque le manteau, nous étions nus et le Seigneur nous met le manteau de justice. Je te lavais dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi et je t'oignis avec de l'huile. Je te donnai des vêtements brodés, une chaussure de peau teinte en bleu. Je te ceignis de fin lin, je te couvris de soie. La pureté, vraiment le salut, le pardon du péché, la purification, la justification devant Dieu. Je te parais d'ornements, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles, une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent, tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe brodée. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture, tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. C'est cela que le Seigneur fait dans nos vies, lorsqu'il nous sauve, lorsqu'il nous accorde la vie d'en haut, celle qui ni de la chair ni de l'homme, mais de Dieu. Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta bonté, car elle était parfaite grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Extraordinaire, l'œuvre de Dieu, pour son peuple, pour nous, qui sommes rachetés, qui sommes justifiés. Il a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification, rédemption. Il nous a revêtus de fin lin. Il nous appelle au banquet, revêtus du vêtement royal pour le repas de noces. Mais tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants. Tu t'es livré à eux. Avertissement. Avertissement. Dieu nous a rachetés. N'oublions pas, jour après jour, cette année et celles qui viendront, de demeurer dans sa grâce. Une autre recommandation aussi, c'est de garder l'esprit d'adoption. Là-dessus, je voudrais venir un petit instant sur le fils prodigue et le fils aîné, vous savez. Voilà des écueils qui nous guettent. Nous avons reçu l'esprit d'adoption par lequel nous pouvons dire « Abba, Père » et nous savons que c'est par Jésus que nous pouvons appeler ce Dieu saint, ce Dieu puissant, Père ou Papa ou Abba. Ne quittons pas cela, l'esprit d'adoption. Oui, notre Père. Oh, c'est des paroles merveilleuses quand Jésus dit cela quand même. Allez dire à mes frères que je m'en vais vers mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu, il nous associe. Nous sommes associés au premier-né de la création, au nouvel Adam, à celui qui est ressuscité, à celui qui est sans péché, à celui qui nous a rachetés. On est unis, on est adoptés. Lui, le Fils unique, et nous, les adoptés. Mais quelle famille, quelle fratrie, quel Père, quelle gloire. Alors l'écueil, il y a l'écueil du fils prodigue lors de son retour. Je dis bien lors de son retour. Vous vous rappelez, je me lèverai, j'irai, je dirai. Et qu'est-ce qu'il s'apprêtait à dire ? Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires, de tes esclaves. Il a préparé son plaidoyer coupable. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers, donne-moi un salaire et je me tiendrai là. Mais que fait le Père ? Il ne lui laisse pas prononcer ses paroles, mais le revêt d'un habit de noces, comme il fait pour son peuple. Lui remet un anneau au signe de l'alliance, de la grâce en Jésus-Christ. Frères et sœurs, ne revenons pas dans notre marche à une attitude d'esclave ou de mercenaire. Continuons de confesser « Abba, Père ». Je ne mérite rien. Je chute encore. Tu vois ma tendance à ne rien devoir à personne, alors je te proposerai bien, Seigneur, je vais rendre mon culte, je vais faire mes devoirs, je vais m'engager peut-être dans l'église. Et puis ce sera bien, on sera quitte. Ça, c'est une voie dangereuse. Mais Seigneur, c'est pas facile. Puis Seigneur, tu me montres, puis quand même, je m'en sors maintenant. Souvenez-vous, le Père n'a pas laissé, n'a pas permis que ces paroles soient prononcées. Le fils aîné est dans la maison. Alors lui, c'est sûr. La situation du retour du fils et de l'attitude du Père va dévoiler son cœur. Nous ne savons pas la suite. Mais en tout cas, là on voit qu'il y a de l'amertume. Et cela peut nous guetter aussi. Moi qui suis chrétien, moi qui sers dans l'église depuis tant d'années, moi qui ceci, moi qui cela. Ça nous guette. C'est insidieux ce machin-là. Parce que ce n'est pas du gros péché, ça. Mais c'est de la propre justice, c'est quand même de la comparaison. Oh, vous savez, moi je ne sais pas, le Seigneur m'a beaucoup parlé là-dessus. On peut être rempli d'amertume. Il y a besoin là, alors, il faut le reconnaître, de dire « Seigneur, envoie le bois de la croix dans les eaux de mon amertume. Envoie le bois de la croix. Je ne me suis pas réjoui de celui qui était paumé plus que paumé et revenu. Je pensais que tu allais accepter qu'il soit, bon, sur un strapontin, parce que quand même, avec ce qu'il a fait, et toi, tu l'as revêtu du même manteau que moi, le fils aîné, celui qui s'est plutôt bien conduit. Ça nous guette. Ça nous guette. Alors voilà, je pourrais prolonger, mais sur cet aspect, la grâce, elle nous sauve, elle nous a sauvés, et elle nous sauve. Dans notre marche, nous avons besoin de demeurer dans cette attitude. Comprenez-moi bien, je ne veux pas qu'on marche sous la culpabilité, mais qu'on se souvienne de nous attirer. Que nos frères et sœurs, peut-être on ne sait pas ce qu'a été leur parcours, mais que chacun se souvienne d'où il a été tiré. Et si certains parmi nous pensaient ce matin que c'était moins grave que le voisin, qu'ils puissent réviser sa position. Le troisième point que je voudrais voir avec nous, avec vous, c'est la grâce, elle nous enseigne. Je ne vais pas développer, peut-être je reviendrai, vous savez, c'est dans Tite. Nous allons lire dans Tite ce merveilleux passage, je trouve. Dans Tite 2, les versets 11 à 14, puis en les relisant, je me suis aperçu qu'il faudrait en prendre d'autres, mais enfin, on va s'en tenir là ce matin. Tite 2, ça commence au verset 11, car. Alors, vous savez, moi j'aime bien les prépositions, s'il y a un car, c'est qu'il y a quelque chose avant. Alors, je ne vais pas le lire ce matin, on ne va pas le traiter ce matin, mais je vous invite quand même à le lire, parce que le chapitre 2 de Tite traite de toutes les positions, du rangement en ordre de bataille, mari, femme, jeune, ancien, salarié, patron, bon là c'est esclave, maître, mais on pourrait dire salarié, patron, etc., etc. C'est très intéressant. Et la motivation de tout ce que Paul va dire là, sur lequel moi je ne veux pas revenir ce matin, c'est « car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Elle a été manifestée à la croix. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur, Jésus-Christ. Je rappelle, la traduction est comme ça, mais quand on regarde de près, la manifestation de la gloire du grand Dieu, virgule, notre Sauveur, Jésus-Christ. C'est bien lui, hein, c'est clair dans la traduction, c'est la manifestation de Jésus-Christ, notre Sauveur, Fils de Dieu, Dieu lui-même, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. Que nous enseigne donc la grâce ? Renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Il y a un enchaînement là-dedans, hein ? On passe vite aussi sur tout ça, renoncer à l'impiété. C'est-à-dire, l'impiété, ça comprend beaucoup de choses. C'est ne pas rendre le culte au seul Dieu vrai et unique. Ne pas s'occuper de notre relation avec le Dieu vrai, unique, vivant et tout-puissant. Donc, renoncer à l'impiété, c'est justement y venir. Et pour cela, quitter les convoitises mondaines. Je ne développe pas les convoitises mondaines. Elles sont bien répandues. Pour vivre dans le siècle présent, donc vous voyez, il y a un temps, si vous voulez. Pour vivre dans le siècle présent, pensez-vous que le Seigneur nous demande de vivre dans le siècle présent pour nous y couler ? Je ne pense pas. Il nous dit pour vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la manifestation de Jésus-Christ, Sauveur et grand Dieu, qui s'est donné pour nous racheter. Donc on peut reprendre les choses à l'envers, il s'est donné pour nous racheter. Et du coup, comme il se donnait pour nous racheter, il nous donne les moyens de renoncer. Bien sûr, il nous attire à lui. Donc nous avons la piété, nous avons reçu la piété, c'est-à-dire ce désir de le connaître, ce désir de proximité avec lui. Et les convoitises mondaines, selon Paul dans Romains, elles sont mortes. Normalement, celui qui a reçu cette vie, qui a compris le salut, qui a compris la grâce et qui a reçu la vie nouvelle, c'est plus une espèce d'effort. Alors questionnons-nous quand même. Si des choses encore m'attirent, où est-ce que j'en suis avec mon Dieu? Alors on renonce à cela et on va pouvoir vivre dans le siècle présent parce que c'est ce qu'il veut, je l'ai souligné au début, mais d'une manière, il faut le dire, séparée, en tant que peuple qui lui appartienne, c'est-à-dire que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous appartenons à Jésus-Christ et nous appartenons quelque part aussi au corps. Donc quelque part, nous appartenons à nos frères et sœurs. Appartenir à Jésus-Christ, bon, appartenir à nos frères et sœurs, puisque nous sommes dans le corps. Alors ce que je saisis des paroles de Paul, c'est que demeurer dans sa grâce, c'est-à-dire avoir en permanence la pensée de notre relèvement par le Christ lui-même, est nécessaire, et ce n'est pas une option, pour vivre dans le siècle sans être emporté par les séductions du siècle. Trois termes qualifient la vie du chrétien qui a saisi la grâce, qui sauve et libère pour sa vie. Donc la sagesse, nous dit Paul ici, la sagesse, c'est ce qui est opposé à la folie dans laquelle est conduit l'homme qui cherche à se positionner et à exister, à trouver son moi au sein du présent siècle. Alors vous allez me dire, mais ça c'est le monde. Pas si sûr. Vous savez, petit à petit, se glisse dans les églises tout un tas de pensées sur l'accomplissement, l'épanouissement, justement mes propres projets, mes rêves, et puis que le Seigneur bénisse parce qu'il est bon. Écoutez, je ne suis pas sûr que ce soit complètement biblique. Le Seigneur ne veut pas nous frustrer. Alors je sais, il y a eu sûrement au fil des temps, au fil des siècles, des mouvements, à l'occasion d'ailleurs de mouvements de réveil, ensuite il y a parfois une rigidité qui vient, on remet des lois, il y a eu des rigoristes, il y a eu de l'austérité, il y a eu, bon, d'un autre côté, il y a peut-être eu du piétisme, une exaltation. Alors, on est balade et d'action en réaction, on se dit quand même, il y a eu de nouvelles découvertes sur la psychologie et l'accomplissement de soi, ça fait partie, Dieu n'est pas contre, Dieu n'est pas contre, il a bien mieux que ça pour nous. Si nous entrons vraiment dans sa volonté. Celui qui a saisi la grâce et donc compris sa perdition en dehors de Christ reçoit la sagesse dans son cœur et connaît la vraie liberté et le repos qui va avec. Il n'a plus besoin de se battre pour exister. La justice. Dans la même pensée, celui qui se sait pardonner n'a plus d'énergie à dépenser pour se justifier par rapport aux autres. Ce qui, au passage, libère de la méchanceté dans laquelle nous conduit inévitablement les comparaisons avec les autres et nous rend au contraire disponibles et emplis de compassion pour ceux que le Seigneur met sur notre route. L'autre dimension de la justice se manifeste dans nos rapports humains, dans lesquels notre moi étant descendu de son trône, nous pouvons considérer les autres, y compris nos frères dans la foi, comme Dieu les voit. Rappelle que Paul nous invite à ne pas avoir de nous-mêmes une trop haute opinion. Autrement dit, de ne pas trop se préoccuper de soi. On peut même, dans un certain zèle pour Dieu, être occupé d'être vraiment juste. La justice, nous la recevons de lui. Proverbe, là aussi, nous dit « ne sois pas juste à l'excès ». Alors, ce n'est pas une excuse pour s'arranger, mais je crois que c'est important. C'est-à-dire, ne cherche pas à te regarder. « Oui, je suis bien juste là, non. » On a toujours besoin, c'est toujours par grâce. La piété, notre relation avec Dieu, la première, je pense, la piété, c'est l'action de grâce, la reconnaissance pour la grâce. Et puis la demande avec assurance de la sagesse et de la justice à pratiquer pour que le présent siècle où il nous ordonne de vivre sente le parfum de Christ répandu. Car finalement, c'est là notre appel. Ce que nous avons reçu, cette justification, cette paix, ce repos parce que nous n'avons plus à démontrer ce que nous sommes, ce que nous ne sommes pas, si nous savons d'où nous venons. Alors ça, là, le parfum va pouvoir se dégager tranquillement. Tranquillement, un parfum, ça exhale sans qu'on fasse des choses particulières. Alors, je voudrais conclure, puisque nous avons reçu ce don de la grâce avec abondance et surabondance. Rendons grâce à Dieu pour ce don. Et s'il nous faut regarder en arrière, que ce soit pour nous souvenir d'où nous a tirés, non pour nous morfondre, mais pour ne pas oublier et être vigilant. La marche chrétienne se pratique sur un chemin étroit, mais tout à fait praticable. Ne dis pas dans ton cœur que ce commandement est au-dessus de tes forces. Maintenant que Jésus-Christ t'a révélé, maintenant que son esprit, la puissance de l'esprit de vie a englouti les puissances du péché et de la mort qui étaient ton lot, alors le commandement n'est plus au-dessus de tes forces. Le Dieu qui nous fait grâce et nous a arrachés au présent siècle mauvais ne nous invite pas à y retourner sans nous équiper. C'est ce que j'espère vous avoir partagé. Et je voudrais dire que sur ce chemin de crête, nous avons deux mains courantes. D'un côté, les promesses de Dieu sur l'assurance du salut, sa fidélité, sa miséricorde. Je vais vous partager deux passages dans Jean 10 au verset 28. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Voilà des choses qui font une bonne main courante sur notre sentier. Encore un autre passage que nous connaissons bien, que nous lisons souvent. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Sauveur. Romains 8, 35 et suivant, je vous invite à le relire. Voilà, il y a d'autres passages. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Il te secourt de ta main puissante, de son bras puissant, de sa droite triomphante. Il m'a retiré des grandes eaux. Nous avons plein de paroles qui nous fortifient, qui nous donnent cette assurance. Et nous sommes invités vraiment à les confesser lorsque tout est basculé, chamboulé. Confessons, oui, ces paroles, qui ne sont pas des exigences vis-à-vis de Dieu, mais un rappel qui va nous redonner des forces. Seigneur, je suis ton enfant. Je suis ton enfant. Mais d'un autre côté, nous avons une autre main courante. C'est les avertissements que nous devons entendre. Et ça, c'est notre part. Par exemple, dans Apocalypse 3, des versets qui m'ont touché, Versets 8 et 10, je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Parce que, au verset 10, tu as gardé ma parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. La tentation va venir sur le monde entier. Et le Seigneur nous dit quelque chose. Peut-être certains, et l'autre jour c'était le cas, lisent simplement « Je te garderai aussi à l'heure de la tentation ». N'oublie pas, parce que tu as gardé ma parole. Ça, c'est notre part. Il nous a changés, il nous a renouvelés. Parce que tu as gardé ma parole, moi je te garderai. Parce que tu n'as pas renié mon nom. Vous savez, il est dit, nous sommes infidèles, mais lui demeure fidèle. Mais si vous me reniez, je vous renierai. Frères et sœurs, je voudrais vous laisser cette image. Deux mains courantes. Une, l'assurance du salut. L'autre, à nous de la tenir, à nous de la saisir. À nous de faire notre part sur la base des recommandations de notre Dieu. Alors, pour terminer, veillons, je reviendrai sur un message aussi plus tard là-dessus, soyons sobres. Je l'ai dit il y a quelque temps, j'ai découvert ce terme de sobriété. Il est particulièrement attaché au temps de la fin. Éloignons-nous des hommes remuants, soyons sobres pour vaquer à la prière. Pour vaquer à la prière, les choses qui se passent aujourd'hui dépassent ce que nous pourrions faire comme œuvre, comme tentative, comme stratégie d'église, de développement. On est bien au-delà, frères et sœurs. Ce que le Seigneur nous demande, ce qui ne va pas dans la pensée de ce monde, d'être sobre, c'est-à-dire pondéré, équilibré, pas tiède, sobre. Gardons sa parole. Il nous gardera. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé, celui qui nous a appelés est fidèle. C'est lui qui le fera. Je vous invite à prier.